vraiment intéressant.
Ça va être génial!
Faut nous laisser maintenant.
Oui, nous recevrons des gens d'ici et d'ailleurs, des grands reporters, des écrivains, des documentaristes, des comédiens, des anthropologues, des photographes, des dessinateurs, des volleyeurs,
voilà.
Des conchyliculteurs, des éleveurs de concombres marins, des hockeyeurs sur gazon.
Alexandre, faudrait qu'on y aille maintenant.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi,
à partir de 21h. France Inter, la différence.
Mais là, c'est ouvert le jour et c'est avec Daniel Mermet pour la Bassigifique que vous avez rendez-vous.
Bonjour, ça y est, enfin, ils ont pris leur décision. Ça n'a pas été simple car ça relève du domaine de la vie privée et on sait que dans ce domaine-là, ils sont intransigeants. C'est donc en toute discrétion qu'ils nous ont annoncé hier aux 20h de TF1 qu'après mûre réflexion et moultes hésitations, ce sera donc Jean-Louis Borloo, le parrain de leur futur enfant. Fallait se dépêcher car l'accouchement était soi-disant prévu aujourd'hui. À bientôt.
Salut les AMG, salut toute l'équipe de la BAF, c'est Didier et Gaïa Kahed. J'entends ce matin sur France Inter quelque chose d'assez effrayant. Une manifestation aux États-Unis, une manifestation parce que les gens sont de plus en plus pauvres. Et à l'issue de cette manifestation, 700 arrestations, 700. Une paille au pays de la démocratie et de la libre expression. Je trouve ça effarant, c'est peut-être ce qui nous attend. Parce que quand on n'est pas d'accord avec ces beaux messieurs, on sort l'attirail militaire. Je ne sais pas pourquoi ces gens manifestaient dans la rue, c'est proprement scandaleux, peut-être parce qu'ils avaient appris que Borloo n'était plus candidat. Allez, salut.
Oui, bonjour Daniel. Je m'inquiète hein, par rapport à l'insécurité dans notre pays, parce que là, je me demandais franchement... où elle se situait, hein. Elle est en augmentation, la délinquance, là. T'as des ministres qui sont inculpés par la justice, des politiciens délinquants entendus par la police, t'as même des politiciens qui accusent la justice, t'as des policiers qui convoquent d'autres policiers pour trafic de drogue, qui convoquent même des juges indépendants pour leur mettre la pression, t'as la justice qui accuse un procureur, enfin c'est quoi ce bordel? C'est une valse, quoi. Moi, je commence à flipper, hein. Je me demande où elle se situe, la délinquance, là. Hein. Donc, le château de cartes, il a l'air de vaciller. Hein. Il serait peut-être temps de mettre un petit coup de balai, quoi. Bah, écoute, c'est Stéphane de Paris. Bonne journée et bonne émission.
Alors, je sors de chez le buraliste. J'achète Fakir et Libération. Et ça fait 4,40. 4,40, c'est bon, quand même.
Allô Christophe, qu'est-ce que je dis Christophe? Allô Marina, mais non pas Marina. Allô Grégory, enfin allô Daniel, j'appelle pour le jeu là. Je suis essoufflé parce que j'ai essayé d'appeler chez moi et je me suis aperçu que j'étais sur écoute. Alors j'ai couru jusqu'à la cabine et il y a les flics qui me suivent. Bon, j'appelle pour vous dire que je l'ai la réponse à la question du jeu de là-bas si j'y suis. La réponse à que faire. Je l'ai la réponse. Je vais vous la donner. Tut, merde, ils ont coupé maintenant. Oh, attends, je refais le numéro. Alors, le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Qu'est-ce que c'est cette connerie encore? Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Oh merde, voilà les flics. Voilà, qu'est-ce qu'ils me veulent? Vous appelez Claude? Est-ce que vous voulez bien le suivre au commissariat, s'il vous plaît? Que faire? Putain, c'est là, parce que la réponse à ma question, que faire, c'était je veux dire, dans l'abstrait. Mais qu'est-ce que je vais faire, là? Soit je les suis en essayant de faire valoir mon droit, mais il y a peu de chance. Soit je me casse en courant, ils risquent de me tirer dessus. Ah putain, si seulement j'avais une bombe dans la main pour les faire sauter. C'est con parce que je l'avais la réponse. Je l'avais la réponse à que faire. Je l'avais. Putain, je suis coincé. Allô. Ah, laissez-moi. Oh.
Que faire? La réponse est simple et difficile à la fois. Le peuple de gauche est majoritairement persuadé que socialistes et verts sont économiquement de gauche. Pourtant, le programme du Conseil national de la résistance en 1945 avec un bon rapport de force syndicale et électorale, fait la démonstration qu'un processus de dépassement des logiques capitalistes est possible. Mesure à appliquer dès la libération du territoire. Sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie, le développement et le soutien des coopératives de production, la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Régis, de Nîmes.
Le 6 octobre 2001, à La Villedieu, petite localité de la Creuse, où des rappelés en partance pour l'Algérie avaient manifesté en 1956 leur opposition à cette guerre coloniale, soutenue par la population, Mémoire à vif voyait le jour, comme tu en avais, Daniel, suggéré l'idée aux jeunes lycéens qui avaient fait revivre par une vidéo cet événement longtemps occulté. 10 ans déjà, au cours desquels nous nous sommes efforcés d'être des passeurs de mémoire, sans nostalgie, mais pour construire l'histoire d'aujourd'hui et de demain. Pour fêter ces 10 ans, Mémoire à vif organise ce jeudi 6 octobre au cinéma Le Lido de Limoges à 20h une soirée cinéma débat avec entre autres la projection d'Octobre à Paris de Jacques Panigel, réalisée à chaud sur la manifestation d'Algériens à Paris le 17 octobre 61 et férocement réprimée. Film longtemps interdit, puis oublié pendant 50 ans.
Vendredi soir, on apprend que pour la première fois depuis l'accident du complexe de Fukushima, on apprend donc qu'une petite quantité de plutonium a été détectée à plusieurs kilomètres à l'extérieur de l'enceinte de la centrale nucléaire. C'est de l'ordre de 4 becquerels par mètre carré. Et dans un autre village, à 45 km, la teneur est de 0,82 becquerel par mètre carré. Et donc le ministère japonais dit que la teneur en plutonium détectée, cette fois, est considérée comme très faible. Donc, il faut considérer que c'est une catastrophe. Normal, on trouve du plutonium à l'extérieur de la centrale, mais c'est une catastrophe normale. Parce que ça aurait pu être une très grosse catastrophe. Non, c'est simplement une catastrophe normale.
L'indépendance de la France. Demain, fermeture du dernier haut fourneau à Fleurange. L'indépendance de la France.
Bonjour à tous, c'est Marie-France du Café Repère de Thouars, dans les Deux-Sèvres. C'est juste pour rappeler aux AMG du coin et de passage que le prochain rendez-vous est mardi 4 au Café des Arts, 53 rue Saint-Médard, à Thouars, à partir de 18h comme d'habitude. Bon courage à tous.
Bonjour Grégory, ça va? Comment ça va? C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire bonjour Grégory. Est-ce qu'on te dit souvent bonjour? Bonjour Grégory, bonjour Grégory.
Mais il est content, Grégory, que vous lui disiez bonjour. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Je reviens sur la manifestation qui aura lieu jeudi à Limoges, le 10e anniversaire de cette association Mémoire à vif à laquelle nous sommes attachés puisqu'elle a été créée à la suite de reportages de là-bas si j'y suis dans cette région. Et donc jeudi au Lido, cinéma Le Lido à Limoges, il y aura une soirée pour le 10e anniversaire de cette assoc avec la projection en avant-première du film de Jacques Panigel Octobre à Paris, qui est un film sur les événements du 17 octobre 1961. On va évidemment, vous le savez, dans les jours prochains, célébrer le 50e anniversaire de cette journée portée disparue. Et je serai pour ma part à Limoges, donc ce jeudi soir. Et puis par ailleurs, au Cabaret Sauvage, le 10 octobre prochain, c'est-à-dire lundi, commémoration du 17 octobre 1961, là aussi j'y serai présent avec eh bien tous ceux qui sont concernés par ce sujet. Ce sera une grande soirée avec des musiciens comme les Ogres de Barbac, de la musique Chahabi d'Alger, etc., et en présence de Stéphane Hessel, de Benjamin Stora, d'Edwige Plenel, pour évoquer ces massacres du 17 octobre 61. Donc le Cabaret Sauvage, j'en reparlerai dans les jours prochains, c'est à Paris, c'est au Parc de la Villette à Paris, et c'est au métro Porte de la Villette, et ça commencera, j'ai pas l'horaire précis, mais je vous le communiquerai à la fin de cette émission. Aujourd'hui, par cette belle journée, j'espère que c'est le cas pour tous ceux qui nous écoutent, il est temps magnifique, on a envie d'aller se balader au bord de la mer, se faire les derniers bains de l'été, ou aller voir l'automne dans les Vosges, par exemple, se balader, etc. Eh bien, il y a des gens curieux qui préfèrent aller à Francfort. Bon, c'est pas mal, Francfort, pourquoi pas. Et qui préfèrent à Francfort aller voir la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, l'Euro Towers. Bon, ça c'est déjà plus curieux. Et c'est ce qu'a fait François Ruffin. Et pourquoi François Ruffin veut absolument aller voir cette Banque Centrale Européenne? Parce qu'il se dit que c'est là que ça se passe. Et oui, c'est là que ça se passe. Il y a beaucoup de choses qui concernent nos vies quotidiennes qui sont décidées dans cet endroit. Et oui, alors on dit, oulala, ça y est, le complot, ils ont trouvé ceux qui, derrière le rideau, sont en train de tirer les ficelles. Pas tout à fait, mais quand même pas très loin. Il se pourrait bien que là se prennent des décisions, des conseils musclés qui effectivement influent grandement les politiques européennes et donc, par voie de conséquence, nos vies quotidiennes. La Banque Centrale Européenne ne fait pas de politique, vraiment, et tout ça se passe à Francfort, capitale du capital.
Quoi d'autre?
Ça part d'ici, oui. Et les décisions qui sont prises ici infusent les politiques économiques en Grèce, en Italie, en France, en Slovaquie, et ainsi de suite.
In fine, nous atteignons l'ensemble de l'économie et donc les citoyens.
Comme député européen, j'ai toujours fait mes campagnes électorales en disant que l'Europe nous faisait du bien. Maintenant, je commence à me demander qu'est-ce que va se passer, parce que donc, je commence à avoir beaucoup de doutes, mais il ne faut pas que je le dise, parce que je devrais démissionner.
Ce qu'on fait en gros au Portugal, c'est ce qu'on a fait il y a un an en Grèce. Et les résultats au Portugal, dans un an, vont être très semblables, comparables à la tragédie grecque.
On ne dit pas aux États, vous devez faire ça, on leur dit, vous feriez mieux de faire ça. Vous feriez mieux de faire ça.
Nous sommes mûrs pour le fascisme, pour...
Vous feriez mieux de faire ça.
Une sorte de dictature technologique.
Vous feriez mieux de faire ça.
Dès qu'on parle de politique avec eux, ils se sentent effrayés du fait qu'on puisse leur dire qu'ils font de la politique. Mais ils font de la politique.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas où j'y suis avec François Ruffin, Francfort, capitale du capital. La Banque Centrale Européenne ne fait pas de politique, vraiment.
Ah, Daniel, là on sort de la gare de Francfort et déjà devant moi se dresse l'Euro Tower, la tour de la Banque Centrale Européenne. Alors tu te demandes qu'est-ce que je viens faire à Francfort, si loin de ma Picardie. Eh bien pendant l'été, je suis tombé sur un article dans le Figaro dont le titre était, attends je lis, « La BCE met de facto l'Italie sous tutelle » et où on apprenait que Jean-Claude Trichet, l'actuel président de la Banque Centrale Européenne, et Mario Draghi, son successeur annoncé, avaient adressé une lettre à Silvio Berlusconi. Alors dans l'article, il y avait une photo de Silvio Berlusconi, les yeux fermés, abattu devant un drapeau européen. Et dans cette lettre, il demandait à l'Italie de privatiser des entreprises, et en citant quelles entreprises, les sociétés municipales de transport public, de fourniture d'électricité, il n'y a que la distribution d'eau qui devait rester publique, en demandant à l'Italie de rendre plus souple son code du travail, de rendre plus flexibles les procédures de licenciement, et en disant à Silvio Berlusconi que tout ça, il ne devait pas le faire en passant par le Parlement, parce que ça prenait trop de temps, mais qu'il devait le faire par décret. Alors ça m'a marqué cet article. Je me suis dit, c'est comme si Francfort était devenu notre capitale. C'est ici que se fabrique la monnaie, c'est ici qu'on annonce qu'il faut reculer l'âge de la retraite, qu'il faut avoir de la souplesse sur le marché du travail, qu'on choisit la stagnation des salaires. Et pourtant, c'est notre capital, c'est notre capital invisible. Je veux dire, comme citoyen français, quand j'étais enfant à l'école, on a fait une visite de Paris, on est allé sur les bateaux-mouches, je suis passé devant l'Elysée. Plus tard, je suis allé à Bruxelles, où j'ai vu la commission et le mannequin Peace. En revanche, jamais l'idée me serait venue d'aller à Francfort, voir à quoi ça ressemblait. Pourtant, c'est un lieu de pouvoir. On arrive au pied de l'Eurotower, là, sur la place Willy Brandt, devant la tour de la Banque Centrale Européenne.
Alors, pour illustrer cette émission, on a d'abord écouté ça. Bon. Après, on a écouté ça. Après, on a écouté ça. Ouais. Mal. Un poil pompeux, peut-être. Oh là, ça c'est la Grèce, ça doit être le Syrtakis, hein, non? L'accordéon. Ça c'est la France. Non. Ah oui, mais la France c'est l'accordéon. Ça c'est, on sait pas. L'Europe.
Ah, l'Espagne, écoutez. Castagnette, ça c'est l'Espagne.
Voilà. Bon. C'est Franck Laderrère qui recherche les musiques pour les émissions de la Basse où j'y suis. Il a passé un très mauvais week-end. Alors on en a écouté d'autres. Et puis finalement on a choisi ça.
Ça, non, c'est rythmé, c'est jeune, c'est européen. Et voilà, vous avez compris, c'est absolument consternant. Ces illustrations musicales en disent sans doute assez long sur ce qu'est l'Europe pour nous. La construction européenne, l'Europe des peuples, l'Europe sociale, l'Europe politique. Franchement, ça fait plus rêver, quoi. C'est dit toutefois, ça n'a jamais fait rêver personne. On peut dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, sauf quand on se trouve à Francfort, capitale du capital, siège de la Banque Centrale Européenne. Et là, ça marche. Là, ça marche. Effectivement, ce que dit François Ruffin, c'est cet article du Figaro du 8 août dernier, où on était tous en vacances, en train de se traîner sur les plages. Mais il y a eu ce papier tout à fait étonnant qui faisait état des injonctions de la Banque Centrale Européenne pour l'Italie, plaçant de facto l'Italie sous tutelle. Alors, on regardait
le kiosque près de chez vous, près de votre métro, vous allez voir Sarkozy le boulet, Sarkozy le nabo, Sarkozy zizi, les chansonniers, les chroniqueurs sont tout le temps en train de taper sur ce pauvre petit Sarkozy. Il se pourrait bien que ce soit en fait un leurre, que ce soit celui sur lequel on tape, dont ce soit le rôle de ramasser... tantôt les honneurs, c'est assez rare, le plus souvent les indignités, et qu'il y ait d'autres personnes derrière le rideau. Alors ça, bien sûr, c'est la théorie du complot, hein. Voilà, il y aurait quelqu'un devant dans la lumière qui serait un leurre, et puis derrière, il y aurait ceux qui tirent les ficelles de cette marionnette. Alors on dit, ben non, ça marche pas comme ça. Mais quand on dit ça, on dit c'est quoi alors? Alors on dit, oh ben c'est le système. Bon, oui, bien sûr, c'est le système. Mais c'est un peu vague, le système. C'est un peu flou. Ou bien on va dire c'est le capitalisme. Oui, très bien, mais enfin, c'est un peu vague, c'est un peu flou, le capitalisme. Et là, il se pourrait bien qu'on ait trouvé, non pas le centre de ces... de ceux qui tirent les ficelles, mais en tout cas, un endroit où on élabore bel et bien des politiques qui ont beaucoup d'importance, beaucoup d'influence sur les gouvernements, sur les politiques qui se sont dessaisis de leur rôle au profit du profit, tout simplement. Et ça, les indignés espagnols, vous vous souvenez qu'on avait rencontré à Madrid et ensuite à Barcelone, ont bien pigé le truc. Ont bien pigé le truc, parce qu'ils n'arrêtaient pas de répéter « Nous n'avons pas élu les banquiers. Nous n'avons pas élu les banquiers. » Et c'est bel et bien quelque chose, cette domination de la finance, cette domination de l'argent, cette domination des banques qui échappe totalement à la démocratie, aux enjeux politiques, et probablement qui échappera complètement aussi au débat qui s'installe en vue des prochaines élections. Voilà pourquoi nous sommes là, à Francfort, par ce beau temps, avec François Ruffin. Francfort, capitale du capital, la Banque Centrale Européenne ne fait pas de politique, vraiment.
Mesdames, messieurs et chers actionnaires, je tiens à vous dire, pute salope, enculé, couille canard, mal monté, branleur, pisseuse, garce, suceuse, que le dernier conseil d'administration, fion, con, que, tête de nœud, sac à bise, chieur de mythe, a décidé à l'unanimité. Fils de pute, enfoiré, reluqué, mal baisé, foutre de chien, fumier de lapin, de vous saluer. Grand couillon, merde, chier, con, pine, morue, trou de cul. À jeudi prochain.
Alors, monsieur Mercier, on est dans les couloirs là, de la Banque Centrale Européenne,
oui.
À Francfort. Vous êtes conseiller principal pour les opérations de marché.
Oui.
Ça veut dire quoi, ça?
Les opérations de marché, c'est le service ou le département, si vous voulez, qui prête de l'argent aux banques commerciales, votre banque, quoi, Société Générale, BNP Paribas ou n'importe quelle autre.
Caisse d'épargne.
Toutes les banques qui veulent venir chez nous, il y a 6300 banques dans la zone euro, toute la zone euro. Chacune d'entre elles a le droit de venir emprunter auprès de la Banque Centrale.
Et ce système-là fonctionne depuis 4000...
Depuis le 1er janvier 1999... 1er janvier 1999. Je suis belge. Et... c'est le premier jour donc où l'euro a été introduit comme monnaie, même si c'était pas encore sous forme de billet. Et depuis ce premier jour, nous sommes actifs. En fait, c'était en fait le lundi 4 janvier. Nous sommes actifs comme banque centrale. Allez-y.
Merci beaucoup.
Personne ne peut nous dire ce que l'on peut faire ou ne pas faire dans les limites très strictes du traité. En fait, si vous voulez, on nous a donné un petit mandat. On a dit, vous vous occupez de la stabilité des prix. Et vous êtes complètement indépendant pour cela. Mais notre indépendance explique pourquoi notre mandat est limité. Parce que si on était indépendant pour faire tout ce qu'on veut dans la vie, ça serait pas très démocratique.
Mais il y a des fois, vous vous occupez pas seulement de la stabilité monétaire. Quand M. Trichet dit qu'il ne faut pas augmenter les salaires, quand en Grèce on dit qu'il faudrait faire une réforme des retraites, quand il y a une lettre qui est envoyée par Mario Draghi et Jean-Claude Trichet à l'Italie en disant voilà, il faudrait privatiser tout ça, il faudrait que ça se passe par décret et pas que ça se passe au Parlement. Là, le Code du travail, il faudrait le revoir en Italie. On n'est pas seulement dans la technique monétaire, quoi.
Oui, donc il y a aussi un rôle de banque centrale, il y a un rôle de conseil. Alors, quand on est en période de crise, on donne des conseils. Et la façon dont vous présentez les choses est peut-être un peu pas tout à fait conforme à la réalité. On ne dit pas aux États, vous devez faire ça. On leur dit, vous feriez mieux de faire ça. Mais bon, c'est vous qui décidez, les États. Mais c'est aussi notre devoir de leur donner des conseils si on a l'impression que s'ils ne font pas leur boulot, bah, ils mettent en péril la stabilité des prix, non seulement dans leur propre pays, mais de tout le club.
Voilà donc à la Banque Centrale Européenne avec le sympathique monsieur Mercier qui nous présente le lieu et la fonction de cette institution énorme en Europe, énorme, mais qui ne fait pas de politique. Vous avez vu, il n'y a qu'un but, c'est la stabilité. Ah, et si la stabilité, c'était justement de la politique? Et si la stabilité, choisir la stabilité, était un choix politique, et pas seulement quelque chose qui, comme son nom le suggère, eh bien une nécessité, une sécurité, quelque chose qui inspire le bon père de famille, qui doit équilibrer son budget. Non, 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 on va voir que c'est pas tout à fait aussi neutre que ça se prétend être. Rencontre avec Clément Fontan.
Clément Fontan, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Grenoble.
Le titre de ma thèse, il n'est pas très définitif. Hein. C'est transfert d'idées, de modèles politiques dans l'Union européenne, le cas de la Banque Centrale Européenne. Mais en fait, je vais m'intéresser de plus en plus à la relation entre la crise financière et la manière dont la Banque Centrale Européenne a gagné de l'influence politique depuis et pendant cette crise. Depuis sa création, la BCE a toujours eu un discours très fort sur les réformes structurelles sur le marché du travail. Ça a toujours existé. La BCE s'est toujours intéressée au marché du travail, aux réformes structurelles, à la flexibilisation, etc. etc. Mais finalement, elle n'avait aucun pouvoir pour peser véritablement. En gros, la banque parlait, les gens l'écoutaient d'une oreille plus ou moins distraite en se disant « Bon, c'est normal, c'est la Banque Centrale Européenne, ils sont conservateurs, on sait comment ils sont, on les écoute, on leur fait plaisir. » Bon.
Quasiment depuis le début, elle dit « Il nous faut un marché du travail plus flexible, surtout n'augmentez pas les salaires. »
Voilà.
Et privatiser, elle le dit aussi ?
Non, ça c'est nouveau. Ensuite, ce que la crise change, c'est que comme la BCE commencent à acheter des bons du trésor des pays qui sont en difficulté, ils vont continuer leur discours sur la réforme structurelle. Sauf que cette fois-ci, les ministres des Finances et les premiers ministres des pays en danger, justement, vont être obligés d'appliquer plus ou moins ce que la BCE a toujours prôné depuis très longtemps. Finalement, la crise a été une fenêtre d'opportunité pour la BCE pour qu'elle puisse pousser pour les réformes qu'elle appelait depuis 1999.
En fait, elle a profité de la crise pour étendre très largement son champ de compétences.
Exactement. À partir du moment où la Banque Centrale Européenne rachète les bons du Trésor des pays attaqués par les marchés financiers, les ministres des Finances et les premiers ministres vont écouter la Banque Centrale Européenne.
Est-ce qu'ils ont donné des ordres à l'Irlande, à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce ?
Ça a été des réformes structurelles sur le marché du travail, donc c'est-à-dire en gros une baisse des droits sociaux en cas de chômage, baisse des aides sociales,
réforme du système de santé. Il y a eu un allongement du départ à la retraite de l'ordre de 5 ans en Irlande et en Grèce. Et une grande masse de privatisation pour réduire concrètement le poids de la dette. Quoi. Donc on est dans une situation type Argentine, FMI, fin des années 90, où on a un prêteur et un emprunteur, et le prêteur continue à exercer une forte pression sur l'emprunteur pour être sûr qu'il applique les réformes qui sont considérées comme bonnes et nécessaires.
Là, tout le discours de la Banque Centrale Européenne, de toute votre littérature préférée, c'est une littérature très technique. Il faut vraiment s'accrocher. D'ailleurs, quand on n'appartient pas au marché financier, on n'y comprend pas grand-chose. Ça se présente comme quelque chose d'expert, alors qu'en vérité, les conclusions qui en sont données, c'est des leçons très politiques. N'augmentez pas les salaires, privatisez, réformer le marché du travail. Autant tout le discours qui amène ça est un discours technique, autant les conclusions qui en sont tirées, c'est des conclusions politiques.
Dès qu'on parle de politique avec eux, ils se sentent effrayés du fait qu'on puisse leur dire qu'ils font de la politique. Mais ils font de la politique. Mais ils ont peur de le dire parce qu'ils n'ont pas la légitimité pour faire la politique, vu qu'ils ne sont pas élus.
Bon bah voilà Daniel, je suis revenu sur l'autre rive du Rhin, mais je suis toujours dans une institution européenne, puisque je suis à Strasbourg, au Parlement, et là, au fil des couloirs, je cherche mon chemin, parce que je me suis un peu perdu dans le couloir, je vais taper à la porte des députés d'un peu partout, du Portugal, de Grèce, d'Allemagne, d'Italie, d'Irlande, pour savoir ce qu'ils en pensent de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, concrètement, dans leur pays.
Voilà la différence, évidemment, quand on est au Parlement européen, c'est que il y a des députés et qu'en principe, ces députés sont des gens qui ont été élus. Alors qu'en pensent les élus européens? Que pensent-ils de la Banque Centrale Européenne, de ce prêteur qui, selon ce que vient de nous dire notre universitaire, exerce de fortes pressions sur les décisions politiques de chaque pays européen. Là, on va rencontrer un député portugais de la gauche européenne, Miguel Portas, le Portugal faisant partie des pays qui doivent se plier à de rigoureux plans de rigueur.
Monsieur Miguel Portas, vous êtes député européen d'origine portugaise. Membre du groupe de la gauche européenne. Quelle est, grosso modo, la situation sociale, économique dans votre pays en ce moment?
Grosso modo, notre pays est sujet à ce qu'on appelle un bail-out, qui a été imposé par la Banque Centrale Européenne, la Commission et le FMI.
Le bail-out, c'est-à-dire, en gros?
Le bail-out, ça veut dire un programme d'emprunt, un grand emprunt de 78 milliards d'euros, où la grande majorité de cet emprunt est destinée à payer aux créanciers, à la banque privée qui a la dette souveraine portugaise. Mais disons que 54 milliards d'euros des 78 milliards, c'est directement pour payer aux créanciers.
On dit à l'État portugais, on va vous prêter 78 milliards d'euros.
Mais un premier et un second et un troisième priorité pour payer à la banque qui a la dette souveraine.
Donc priorité pour payer à la banque et en échange, vous
et
devez mettre...
Échange, et en échange, vous devez appliquer un programme d'austérité très féroce. Bon. On a augmenté de 17, 18, 20% l'eau, l'électricité, etc. Et il est important pour un Français de savoir que le salaire minimum portugais, c'est de 485 euros par mois. La retraite moyenne au Portugal, c'est de moins de 300 euros. Hein. On a augmenté le TVA vers les 23% sur la grande majorité des produits qui étaient plus haut en bas. Au contraire, le grand capital, disons, il est au nom de la nécessité d'avoir de l'argent pour l'investissement, il est sauvegardé complètement dans cette phase-là.
C'est-à-dire que sur les travailleurs, sur l'État portugais, quand la Banque Centrale Européenne fait un prêt, il y a des contraintes. Mais sur les banques, là, il n'y a pas de contraintes.
Ce qu'on fait, en gros, au Portugal, c'est ce qu'on a fait il y a un an en Grèce. Et les résultats au Portugal, dans un an, vont être très semblables, comparables à la tragédie grecque d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que là, la Grèce, on lui a dit « faites des réformes, faire des réformes ». Le résultat, c'est une récession.
Le résultat, c'est que l'endettement se développe.
Donc en Grèce, ça aboutit sur 5% de récession pour l'année 2011.
Oui.
Et vous, vous craignez que pour l'année prochaine, le Portugal, ça soit 5% de récession aussi?
Non, ce qui est prévu dans même les numéros du gouvernement et de la Troïka, c'est une récession de plus de 2% et qui s'est aggravée déjà pour 2011. Plus une nouvelle année de récession de presque 3% en 2012. Et après, il parle d'une remonte à partir de 2013. Mais les hypothèses de remonte sont presque inimaginables. Mais vraiment, vraiment, ce qui est en jeu, c'est une transférence massive de revenus du travail vers le capital.
Lors de sa dernière conférence de presse à Francfort,
oui.
Monsieur Jean-Claude Trichet, le dernier paragraphe, c'était structural reforms, structural reforms, structural reforms, wage flexibilité, donc réformes structurelles, flexibilité des salaires, licenciement.
Nous avons deux ans de réformes structurelles avec les résultats qui sont à vue. C'est si simple que ça. C'est la réalité qui se trompe. La dernière fois que j'étais avec lui, je l'ai même dit ça. Avec vous, c'est la réalité qui se trompe parce que vous êtes toujours certain.
C'est-à-dire que même quand les réformes structurelles amènent dans le mur, ce qu'ils disent, c'est il faut plus de réformes structurelles.
J'ai fait tout bien, j'ai prévenu un temps, mais les gouvernements ne font pas ce que je le dis pour faire. Ça, c'est sa seule réponse.
Les Italiens ont peur de l'avenir. Une crainte relayée ce mardi matin par les unes des grands journaux du pays.
Euronews.
Selon le Corriere della Sera, Silvio Berlusconi a reçu un courrier secret de la Banque Centrale Européenne.
9 août 2011.
Cette dernière, en échange de son soutien à l'Italie, a demandé au Cavaliere d'adopter de nouvelles mesures destinées à atteindre un budget équilibré d'ici 2013 au lieu de 2014. Information confirmée par le président de la BCE lui-même.
Nous avons demandé de manière extrêmement claire pendant les derniers jours au gouvernement italien de prendre un certain nombre de décisions qui ont été prises et d'accélérer en particulier le retour à une situation budgétaire normale. Nous avons demandé la même chose au gouvernement espagnol.
Monsieur Gianni Vattimo, vous êtes député européen, originaire d'Italie. Vous êtes membre du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Je viens vous voir parce qu'en fait, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à la Banque Centrale Européenne, c'est un article qui est paru dans Le Figaro cet été, et où on voyait Silvio Berlusconi complètement abattu, et en dessous, il y avait ce titre « La Banque Centrale met de facto l'Italie sous tutelle ». Une lettre était partie de Jean-Claude Trichet et Mario Draghi qui s'adressaient au gouvernement italien, qui lui conseillait très fortement de privatiser un certain nombre de sociétés, les sociétés de transport, d'électricité. Il fallait aussi que le code du travail soit réformé, qu'on puisse faciliter les licenciements. Et tout ça devait se faire, non pas en passant par le Parlement, mais par décret pour que ça aille plus vite. Quand vous avez découvert cette lettre, qu'est-ce que vous en avez pensé?
D'ailleurs, en principe, on l'a très peu montré en Italie. Et moi, je suis absolument en désaccord avec ça. Je crois, comme tout le monde, comme député européen, j'ai toujours fait mes campagnes électorales en disant que l'Europe nous faisait du bien parce que dans un monde de grande puissance économique, il pouvait pas être l'Italie, la France, mais l'Europe. Ok. Maintenant, je commence à me demander qu'est-ce que va se passer parce que donc je commence à avoir beaucoup de doutes, mais il ne faut pas que je le dise parce que sinon je devrais démissionner.
Vous, monsieur Vattimo, vous avez toujours été pro-européen?
Oui, je l'ai été dès le début. Je commence à avoir des doutes maintenant parce qu'il n'y a pas un gouvernement européen suffisamment fort pour s'opposer politiquement à l'influence des forces économiques qui sont vraiment à ce moment-là des forces de gangsteriques, hein, pour tout dire.
Des gangsters?
De gangsters, oui. Banditesques, de rapines.
La Banque Centrale Européenne, c'est finalement le nouveau gouvernement européen qui dit voilà les mesures que l'Italie doit mettre en œuvre, que l'Espagne doit mettre en œuvre, que la Grèce doit mettre en œuvre. Finalement, le gouvernement européen, il n'est pas à Bruxelles, il n'est pas à la Commission, il n'est pas à Strasbourg, au Parlement où on se trouve, il est à Francfort et à l'Eurotower.
Ça, c'est le portrait du monde contemporain. Je n'ai jamais cru à un complot international des riches. Mais là, maintenant, on le voit en action, c'est-à-dire, c'est les banques qui commandent. Et nous sommes tous plus ou moins persuadés que si on ne sauve pas les banques, nous sommes perdus. Mais il faudrait justement un peu de fantaisie pour dire, essayons. Par exemple, je suis intéressé par l'initiative de certains pays d'Amérique latine qui ont décidé de restructurer la dette, disons, tout simplement de ne pas la payer immédiatement, ce qui pourrait nous aider. Par exemple, en Italie, nous avons le salaire des employés publics entre les plus bas d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je préférerais le default que continuer à payer, et à payer, à payer, à payer, etc. Donc, ça, c'est un problème politique aussi, idéologique.
En Islande, il y a eu une décision de ne pas payer un certain nombre de dettes. Mmh. Il y a eu la décision aussi de passer par une dévaluation de la monnaie islandaise. Il y a eu la décision de recourir à davantage d'inflation. Donc finalement, ça, ne pas payer les dettes, la dévaluation, l'inflation, ce sont des outils politiques. Alors qu'on a le sentiment aujourd'hui que l'Europe ou l'euro est un peu sur pilote automatique, qu'elle est passée de la main des politiques aux mains de techniciens, donc les gouverneurs des banques centrales et ainsi de suite, qui viennent dire non, il faut payer toutes les dettes, non, il ne faut pas d'inflation, non, il ne faut pas dévaluer. Donc c'est un peu le choix entre est-ce qu'on se met sur pilote automatique avec des techniciens qui dirigent l'avion, ou bien est-ce qu'on effectue des choix politiques comme l'ont fait par exemple les Islandais.
Moi justement, je suis du côté des Islandais, ça se comprend. Je préfère un gouvernement endetté plutôt qu'un gouvernement technico-reproductif, c'est-à-dire... C'est, d'ailleurs, voyez ce qui se passe dans l'intérêt politique des Européens. Depuis qu'il y a la globalisation, cette prise de pouvoir des techniciens financiers, etc., l'intérêt politique diminue, c'est-à-dire nous sommes mûrs pour le fascisme, pour une sorte de dictature technologique envers laquelle nous n'avons pas ni des arguments, parce qu'on nous remplit la tête avec les journaux mainstream, ni des possibilités pratiques de nous opposer, parce que on nous menace. C'est ce qui se passe par exemple en Italie avec les syndicats. Monsieur Marchionne, le CEO de Fiat, le PDG de Fiat, a imposé un contrat qui viole aussi les droits constitutionnels des travailleurs en disant ou comme ça, ou je transporte la production en Pologne, en Chine, etc. Quoi faire? Nous sommes dans les mains de ces gens qui sont...
Ben alors, pourquoi pas faire comme en Islande? J'ai une citation de Paul Krugman, donc un prix Nobel d'économie, qui note que l'Islande s'est relevée beaucoup plus vite que prévu parce qu'elle n'a pas adopté l'euro, il dit Paul Krugman. Donc pourquoi pas faire comme l'Islande et puis utiliser ces leviers politiques, la dévaluation, l'inflation et le non-paiement d'un certain nombre de dettes?
Oui, non, j'admire beaucoup cet exemple islandais. Mon problème, c'est que l'Islande ne fait pas partie de l'Union européenne, et nous, les Italiens, oui. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. C'est malheureux. Mais, parce que effectivement, ça a été longuement la politique italienne, c'est-à-dire nous dévaluons un peu. C'était un moyen de payer le dette, mais ça marchait. Ça marchait mieux que maintenant, parce que l'exportation continuait, ça développait. C'est un régime tout à fait capitaliste aussi, un peu moins cruel, ce moment-là, c'est tout.
Le peuple avant le profit. Le message est brandi sous les fenêtres de Brian Cowen, le Premier ministre irlandais.
France 24.
Quelques dizaines de personnes venues manifester leur colère après l'annonce du plan de rigueur.
25 novembre 2010.
Si le budget passe comme ça, s'il le passe en force, c'en est fini l'Irlande. Ça y est, on est la propriété du FMI.
Mais ni la menace, ni les manifestants n'effraient le gouvernement, convaincu de la nécessité de sauver le pays de la faillite. Le ministre irlandais des Finances l'a répété sur France 24.
Bien sûr, il y a de la colère, mais la colère, ça n'est pas la bonne politique. Il y a une grande majorité silencieuse, des gens qui m'arrêtent tous les jours dans la rue pour me dire « Continuez comme ça, Brian ».
Présenté comme un préalable obligatoire auprès de 85 milliards d'euros de Bruxelles et du FMI, le plan de rigueur ne convainc pas forcément des Irlandais qui ont déjà connu 3 budgets d'austérité et voient d'un mauvais œil le recours à l'aide internationale.
Austérité en Irlande, ne pas confondre Irlande et Islande. Gianni Vattimo vient de nous l'expliquer. Je rappelle que Gianni Vattimo est député italien du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. C'est pas un épouvantable gauchiste, vous avez entendu ses positions. Et comment il considère le poids de la Banque Centrale Européenne sur les décisions politiques européennes et la décision politique de chacun des États européens. Voilà la réaction de Paul Murphy, qui est député irlandais de la gauche européenne.
Monsieur Paul Murphy, on est dans votre bureau à Strasbourg, au Parlement européen à Strasbourg. Vous êtes député irlandais de la gauche européenne. Est-ce que vous pourriez décrire la situation économique et sociale de votre pays depuis un ou deux ans?
The situation is devastating from the point of view of working class people.
La situation est catastrophique du point de vue des travailleurs.
The economy has collapsed with GDP declining for two or three years in a row and the living standards of people have been destroyed.
L'économie a chuté avec le produit intérieur brut qui est en récession depuis deux ou trois ans et le niveau de vie des gens qui s'est également écroulé.
And unfortunately, that's only the beginning. There's a lot more cuts to come.
Et malheureusement, c'est que le début. Quel a été le rôle de la Banque Centrale Européenne dans cette crise? Est-ce qu'ils sont venus pour sauver le peuple irlandais ou pour sauver les banques?
They clearly came to save the banks.
Ils sont clairement venus pour sauver les banques.
I mean, the ECB has been, you know, one of the three members of the so-called Troika, which has imposed the Memorandum of Understanding on Ireland, which requires a whole series of massive cutbacks on ordinary people.
La Banque Centrale Européenne est un des trois membres de la Troïka, avec la Commission Européenne et le FMI, qui ont mis en place ce grand programme d'austérité.
And at the same time, they have insisted that no bondholders are burnt.
Et dans le même temps, ils ont insisté pour que aucun détenteur de capitaux ne soit pénalisé.
For me, one of the most outrageous features of this crisis is the role of the ECB, which is independent, but it's independent from democratic accountability, it's independent from any democratic control, and it's completely dependent and in the interest rules in the interest of the financial markets, the banks, the bondholders, etc.
Moi, vraiment, une des choses qui m'a marqué dans cette crise, c'est le rôle de la Banque Centrale Européenne qui se prétend indépendante, qui est certes indépendante des États, indépendante de la démocratie, mais qui n'est pas du tout indépendante des acteurs financiers, puisqu'ils sont venus pour la sauver. Au printemps, il y a eu des élections en Irlande. Le parti qui arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir avec une promesse. Les contribuables ne seront pas les seuls à payer, les banquiers vont payer aussi.
That's correct. That's what they promised in the course of the election campaign.
C'est exact. C'est ce qu'ils ont promis pendant la campagne.
The reality, though, unfortunately, is completely the opposite.
Malheureusement, la réalité, c'est complètement l'inverse.
So one of the two parties that's in power now, Labour, said during the election, they used the slogan of it'll be Labour's way or Frankfurt's way.
Pendant les élections, le Labour, le parti travailliste qui est maintenant au pouvoir, avait comme slogan, ça va être la manière du parti travailliste ou ça sera la façon de Francfort. Le peuple a choisi la façon du parti travailliste.
And then the reality is that so-called social democracy in Ireland, like so-called social democracy across Europe, have completely genuflected in front of the markets, in front of the ECB, in front of the Troika, and have gone back.
Alors la réalité, c'est que les sociaux-démocrates en Irlande, comme partout en Europe, ont fait une gémuflexion devant les marchés, devant la Banque Centrale Européenne, et sont complètement revenus sur leurs promesses.
We can look at Greece now, we can look at Ireland now, where austerity policies don't work. They've been proven not to work.
Il suffit de regarder aujourd'hui la Grèce ou l'Irlande pour voir que le niveau de vie s'écroule et que les politiques d'austérité ne marchent pas.
They pose this as a technical question. And that these technical experts, who happen to be neoliberalists, are looking for the best possible answer to the crisis.
Ils posent tout ça comme un discours technique et pas comme un discours politique, comme un discours d'experts qui cherchent juste la meilleure solution à la crise.
But really, the policies they're implementing are policies in favor of a certain class in our society. They're in favor of the elite, big business, banks,
Mais en vérité, les politiques qui sont en train de mettre en œuvre à travers l'Europe sont des politiques en faveur d'une certaine classe, des riches, des banques.
And that the policies being implemented do work for them. They don't work for the economy as a whole. They don't work for working class people, but they work for the class interests they represent.
Mais et en vérité, les politiques qu'ils mettent en œuvre, elles marchent. Mais elles marchent pour les riches, elles marchent pour les banques, elles marchent pour eux. Elles ne marchent pas pour l'économie ou pour les travailleurs. Monsieur Emmanuel Larue, vous êtes fonctionnaire de la Banque Centrale Européenne.
Je suis agent, oui.
Vous êtes agent de la Banque Centrale.
Il n'y a pas de fonctionnaire à la Banque Centrale Européenne.
Vous êtes membre du syndicat IPSO.
Oui, je suis vice-président du syndicat IPSO.
Il y a donc un syndicat à la Banque Centrale Européenne.
Oui, ça peut en surprendre plus d'un parce que, a priori, on a une clientèle, je pourrais dire, qui est assez conservatrice. Mais on a un syndicat qui est gros. On a plus de 40% des employés permanents à la Banque Centrale qui sont syndiqués. On est passé de 30 membres il y a, je dirais, 5 ou 6 ans à 400 en 2009, parce que c'est vraiment là que, avec cette réforme des pensions, que les gens sont venus en masse au syndicat. Pour plaisanter, on aime dire que M. Trichet nous a beaucoup aidés.
Quel était le déclencheur? Est-ce qu'on a décidé un recul de l'âge de la retraite, comme en France, comme en Espagne, comme en Italie, comme en Allemagne, comme dans tous les pays européens?
Oui, et ça, on l'acceptait très bien. Simplement, on a fait des calculs et on s'est dit, ben voilà, le fonds a un déficit de 3 ou 4%, et donc la BCE en a pris prétexte pour réduire les pensions de 20% pour augmenter l'âge de la retraite de 60 à 65 ans en gardant la possibilité de l'augmenter à 67, 68 ans, 60 plus si possible. Donc on a vraiment laissé beaucoup de plumes et on a eu la perception que c'était injuste parce que ça allait très au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer la viabilité du plan. Il y a eu des manifestations. Ça a été la première fois, hein. C'était historique. La place devant laquelle nous nous trouvons était pleine de monde, puisqu'on a mobilisé 400, 500 personnes.
Vous avez gagné ?
Non, on n'a pas gagné. Il n'y a pas eu une seule inflexion de la part de la banque. Monsieur Trichet a été particulièrement rigide, je dirais. Des négociations. Il n'était même pas question d'avoir des négociations parce que le mot de négociation est tabou. Hein. On l'appelle le mot en haine ici pour ne pas le prononcer. C'est comme une grossièreté, alors on ne le prononce pas. On ne négocie pas avec la Banque Centrale Européenne.
Comme s'il y avait un parallélisme, comme si on faisait à l'intérieur de la Banque Centrale Européenne, les mêmes consignes sont données à l'extérieur de ce bâtiment, sont données à Athènes, à Rome, à Madrid, à Lisbonne. C'est-à-dire il y a un déficit. Et on vous dit, la solution, c'est de mettre en place des réformes structurelles, c'est de baisser les pensions, c'est de repousser l'âge de la retraite.
Oui, bien sûr, on peut pas s'empêcher d'y penser. Oui, moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans tout ça, en tant que syndicaliste, c'est que le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est de gérer la politique monétaire. Or, de la politique monétaire, on passe à la politique fiscale. Et de la politique fiscale, on passe à la politique sociale. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que la politique sociale de la BCE, je l'ai vue à l'œuvre en interne.
Voilà la suite. Demain, la Banque Centrale Européenne ne fait pas de politique. On aura dans cette suite de reportage, d'ailleurs, une rencontre avec Jean-Claude Trichet, soi-même à lire. Ordre monétaire et chaos social de Frédéric Le Baron, aux éditions du Croquant. Merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Et également sur le site là-bas.org. Vous pouvez réécouter cette émission et vos commentaires y sont attendus. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Bertrand Chometon et Franck Adherer ont réalisé cette émission et Marina Touillez nous assiste. Quant à Grégory Salomonovitch, le chef du répondeur, il attend vos messages au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Vous avez racheté une boulangerie, changé l'adventure, repeint l'intérieur. Vous avez trouvé une vendeuse charmante.
Vous avez épousé la vendeuse charmante.
Et la cerise sur le millefeuille, c'est que vous pouvez aussi faire des économies sur l'éclairage.
Appelez votre conseiller EDF Pro. Il pourra vous mettre en relation avec des partenaires qualifiés pour rendre l'éclairage de votre local plus économe en énergie. Plus d'informations sur EDF Pro au 0810 333 776. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Préfonds Retraite, vous connaissez ? C'est le numéro 1 de la retraite complémentaire facultative de la fonction publique. Aujourd'hui, nos experts vous conseillent au 30-25 pour vous préparer des revenus à vie sécurisés et bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Oui, vous ! En France, 10 millions de personnes peuvent en profiter. Appelez vite le 30-25.
Préfonds Retraite, complémentaire et nécessaire.
30-25, appel gratuit depuis un poste fixe.
France Inter, partenaire du Festival de cinéma Lumière 2011, jusqu'au 9 octobre. Redécouvrez sur grand écran les classiques de l'histoire du cinéma, de Jacques Becker à Gérard Depardieu, prix Lumière 2011. Plus de 200 séances dans les salles de Lyon et du Grand Lyon, en présence de nombreuses personnalités du cinéma. Retrouvez Lumière 2011 dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter présente Vagabonde, de Claire Denamur. Entre folk et blues, le timbre écorché de Claire de Namur nous transporte vers les grands espaces américains. En concert le 20 octobre à Paris, au Café de la Danse. Retrouvez les nouveaux titres de Claire de Namur dans la programmation musicale de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h, toujours à la BCE. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Un gouvernement provisoire pour la Libye. Le président du Conseil national de transition, Mustapha Abdeljalil, l'a présenté cet après-midi à Tripoli. La libération est proche, dit-il. Ce nouvel exécutif provisoire marquera le début de la transition politique en Libye. Le comble pour un chercheur, recevoir le prix d'une vie juste après sa mort. C'est ce qui arrive à Ralph Steinman aujourd'hui. Avec le français Hoffman et l'américain Butler, le Canadien a reçu ce matin le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur le système immunitaire. Mais l'université américaine pour laquelle il travaille a fait savoir aujourd'hui qu'il était le 30 septembre dernier mort d'un cancer du pancréas. En France, l'audition du juge Courroy sur l'enquête sur la violation des sources des journalistes du Monde en marge de l'affaire Bettencourt. Elle devait avoir lieu le 20 octobre prochain. On apprend finalement aujourd'hui qu'elle est reportée à une date ultérieure. Il avait accroché la veste de Nicolas Sarkozy le 30 juin dernier lors d'une visite du chef de l'État à Brax dans le Lot-et-Garonne. Herman Fuster avait été condamné pour ça par le tribunal correctionnel en juillet. Aujourd'hui, c'est la mairie d'Agen pour laquelle il travaille qui a décidé d'une sanction, 3 mois de suspension. En fait, le maire nouveau centre d'Agen, Jean-Dionis du Séjour, a tranché Stéphane Iglesis.
L'employé municipal de l'école de musique d'Agen avait accroché la veste du président de la République pour attirer son attention. « J'ai fait une connerie que je n'aurais pas dû faire. Je regrette ce qui s'est passé », avait expliqué Herman Fuster lors de son procès en juillet dernier. Le maire d'Agen rappelle le devoir de réserve d'un fonctionnaire, mais il tient compte de l'avis de la psychologue et des syndicats de la mairie. Jean-Dionis du Séjour, maire d'Agen.
Ce conseil de discipline s'est réuni vendredi et il m'a rendu un avis qui était un avis de 2 ans de mise à pied, dont 6 mois ferme. J'ai notamment écouté ce que m'ont dit les partenaires sociaux, les syndicats de la mairie. J'ai écouté aussi la communauté pédagogique, les parents d'élèves et les professeurs de l'École nationale de musique, et puis la psychologue du travail de la mairie d'Agen. Et globalement, ces gens-là ont plutôt fait des retours qui étaient favorables à Herman Fuster. Il m'a semblé que le point d'équilibre était, un, il faut une sanction, et deux, il faut qu'elle soit réduite par rapport à l'avis du conseil de discipline.
Herman Fuster attendra donc 3 mois avant de retrouver son travail à l'école de musique, ses collègues et les parents qui ont tous témoigné en sa faveur. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
14 supporters des Girondins de Bordeaux se retrouvent cet après-midi devant le tribunal correctionnel. Une comparution immédiate pour avoir lancé samedi des projectiles et brisé la vitre d'un autocar de supporters de Montpellier. C'était juste avant le début de la rencontre comptant pour la 9e journée du championnat de Ligue 1. Le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés a reculé de 0,2% en août 2011 par rapport à juillet, chiffre donné par Pôle emploi aujourd'hui. Mais globalement, sur l'année, le nombre de chômeurs indemnisés a progressé de 0,7%. On en compte en France un peu plus de 2 millions. Total, lancé station-service à bas prix. Les deux premières ont été installées cet après-midi en banlieue parisienne. Le but de Total, concurrencer les grandes surfaces en baissant les marges. En revanche, aucune station du groupe sur autoroute ne sera concernée. Vous écoutez France Inter, il est 16h03. Il n'y a pas de publicité, donc on va enquiller directement. Je suis désolée, Frédéric Le Théon.
Bonjour, c'est Laetitia. À vous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, Gabriel Fauré est à l'honneur. Vous avez déjà entendu ce disque consacré au Requiem et à quelques autres pièces. On va d'ailleurs encore tendre une oreille vers cet enregistrement. Et puis, chez la même firme, c'est-à-dire chez Virgin Classics, on trouve maintenant l'intégrale de la musique de chambre de Gabriel Fauré avec de très beaux artistes comme Renaud et Gauthier Capuçon, Nicolas Angelich, Michel D'Alberto, le Quatuor Eben, Gérard Cosset. Et là, vraiment, c'est un florilège tout à fait exceptionnel. Alors, Gabriel Fauré, je rappelle, né à Pamiers dans l'Ariège en 1845, compositeur français, bien sûr. Il a fait ses études à Paris, il a été élève de Saint-Saëns dont il est devenu l'ami intime. Après ça, il a été organiste à l'église Saint-Sauveur de Rennes. Et puis il est allé aussi à Paris, à Notre-Dame de Clignancourt, à Saint-Honoré-des-Laux, à Saint-Sulpice, jusqu'au moment où il a été nommé consécration, maître de chapelle de la Madeleine, la grande église de la Madeleine. Et puis avec Saint-Saëns, son maître et ami, il est parti en Allemagne. Il est allé à Weimar pour la création du maître Saint-Saëns de Samson et Dalila. Il y avait Franz Liszt aussi, enfin c'était la grande époque. Et puis il est allé aussi à Cologne se rincer l'oreille, se renseigner surtout sur ce style qui était à la fois menaçant et très important, le style de Wagner. Il a entendu l'Or du Rhin, la Valkyrie, à Munich ensuite. Un homme qui a entendu beaucoup de musique, a subi beaucoup d'influence, mais qui a toujours su garder sa route à lui, c'est-à-dire une musique typiquement française, claire, très harmonieuse, mais avec quand même des accords quelquefois riches et même compliqués, beaucoup de sensualité. Un compositeur un peu proustien, allons-y carrément. Il est bien de chez nous avec ses superbes bacchantes, ses superbes moustaches et une fin tragique pour Gabriel Fauré, un peu comme Beethoven, c'est-à-dire la surdité, et même une surdité très dérangeante avec des sons qu'il entendait qui étaient des sons complètement discordants, et pas seulement le silence, mais en plus des sons un peu démoniaques. Alors quoi qu'il en soit, de ce très très grand compositeur français Gabriel Fauré, voici l'Allegro vivo de la première sonate pour violon et piano. Thank you.